Chapitre 3. Les jours suivants, la température descend à 30 degrés au-dessous de zéro. À l'intérieur de la hutte, il fait moins 10 degrés.
« Quittons cette maison de neige !» dit André Vasling.
« C'est impossible !» répond Penellan. « Il fait trop froid pour rester dehors !»
Pendant la nuit, il y a une tempête de neige. La hutte est complètement couverte par la neige et la glace, et nos amis sont enterrés vivants. Lorsque Penellan se lève le matin suivant, il se rend compte tout de suite de la situation et il essaie de couper les murs de la hutte pour sortir. Mais c'est impossible. Marie, en voyant son visage désespéré, lui prend les mains et les serre avec tendresse. Penellan sent son courage revenir.
« Elle ne peut pas mourir ainsi, dit-il. »
Et il recommence à travailler. Il coupe la glace, repousse la neige et, après plusieurs heures, il peut faire une petite ouverture. Penellan sort et regarde autour de lui. La hutte se trouve au milieu d'une immense plaine de glace. Le traîneau a disparu, ainsi que les chiens et les provisions. Penellan appelle André Vasling et les deux hommes partent à la recherche du traîneau et des chiens. Mais ils ne voient rien. Ils retournent vers la hutte. Avant de rentrer, André Vasling monte sur un bloc de glace et regarde attentivement dans toutes les directions. Soudain, il devient pâle.
« Qu'avez-vous, Vasling ?» lui demande Penellan.
« Ce n'est rien. Partons d'ici rapidement. »
Penellan monte à son tour sur le bloc de glace, regarde lui aussi dans la direction où regardait son compagnon et pousse un cri de joie.
« Ouais, ouais !»
Une fumée s'élève au loin. Cela signifie qu'il y a des êtres humains tout près. Les cris de joie de Penellan attirent ses compagnons qui se réjouissent en voyant cette fumée. La fumée s'élève dans le nord-est, à environ 6000. Tous les hommes et Marie partent rapidement dans cette direction. Ils marchent depuis une demi-heure lorsqu'ils voient un homme couché sur la glace. Penellan et André Vasling s'approchent de lui.
« C'est un des naufragés !» dit le second.
« C'est le matelot Cortrois !»«
Il est mort !» dit Penellan. « Mort de froid !»
Ils marchent encore pendant une demi-heure sans rien dire. Puis, ils aperçoivent une fumée qui sort d'une hutte de neige. Ils poussent des cris et deux hommes sortent de la hutte.
« Pierre !» s'écrie Penellan, qui a reconnu le matelot Pierre Nouquet.
André Vasling regarde avec une joie cruelle le compagnon de Pierre Nouquet, car il ne reconnaît pas Louis Cornbutte.
« Pierre, c'est moi !» s'écrie Penellan. « Et voici tous tes amis !»
Pierre Nouquet embrasse son vieux compagnon.
« Et mon fils ! Et Louis !» crie Jean Cornbutte.
À ce moment, un homme presque mourant sort de la hutte et tombe sur la glace.
« C'est Louis Cornbutte !»
« Mon fils !» crie Jean Cornbutte.
« Mon fiancé !» crie Marie.
« Mon père, Marie !» crie le jeune homme. « Je suis content de vous voir avant de mourir. »«
Tu ne vas pas mourir !» lui répond son père, « car tes amis sont maintenant près de toi. »
Tout le monde entre dans la hutte. André Vasling est le seul qui n'est pas heureux de voir Louis Cornbutte vivant. Et il est le seul qui ne lui donne pas la main pour le saluer. Pierre Nouquet est heureux et il embrasse tout le monde. Dans la hutte, il y a deux hommes que ni Jean Cornbutte ni Penellan ne connaissent. Ce sont Jockey et Herming, les deux seuls matelots norvégiens du Froern qui sont encore en vie.
« Mes amis, nous sommes sauvés !» dit Louis.
Jean Cornbutte leur raconte leur voyage pour les retrouver et leur explique que la jeune Hardie est ancrée dans les glaces, à 60 lieues de là.
« Quand Cortrois va rentrer, il va être content de vous voir !» dit Pierre Nouquet.
Un triste silence suit ces paroles. Penellan apprend à Pierre Nouquet et à Louis Cornbutte que leur compagnon est mort de froid.
« Mes amis, leur dit-il, nous allons attendre ici que le froid diminue, puis nous irons tous ensemble sur le navire. »
Pierre Nouquet
raconte à Jean Cornbutte l'histoire de leur naufrage et lui explique avec beaucoup de détails comment ils ont pu survivre. Il lui dit aussi que Louis Cornbutte s'est tout de suite rendu compte que les deux matelots norvégiens à qui il avait sauvé la vie n'allaient pas l'aider. Pendant ce temps, Louis Cornbutte raconte à Penellan ce qui s'est passé avec les deux matelots norvégiens. Et celui-ci lui dit ce qu'il pense d'André Vasling. Il lui dit aussi que cet homme a tout fait pour convaincre Marie que son fiancé était mort. Pendant toute la journée, les hommes se reposent. Ils sont heureux de se revoir. Fidèle Misonne et Pierre Nouquet tuent quelques oiseaux près de la maison. Le feu et ses aliments redonnent de la force aux plus malades. Le 17 novembre, 8 jours après leur rencontre, il fait moins froid et Jean Cornbutte et ses compagnons décident de repartir. Jean Cornbutte marche le premier. Ils ont la chance de retrouver le traîneau et les chiens. La petite troupe continue sa route vers la baie où se trouve le bateau. Pendant le retour, Penellan se rend compte qu'Opic, André Vasling et les Norvégiens sont toujours ensemble et qu'ils ne parlent pas aux autres hommes. Il le dit à Louis Cornbutte et les deux hommes décident de les surveiller. Vers le 7 décembre, ils voient enfin la baie. Et ils sont très étonnés en voyant le brick posé sur des blocs de glace à presque 4 mètres de hauteur. Gervic, Turquiette et Gradelin poussent des cris de joie en les voyant arriver. Ils sont en bonne santé, mais ils ont vécu des moments de grand danger pendant la tempête qui a déplacé les blocs de glace et les a placés les uns sur les autres, ce qui explique la position du brick. Il y a cependant une mauvaise nouvelle. Pendant la tempête, le magasin de neige où ils gardaient les vivres a été détruit et tous les aliments ont disparu. Jean Cornbutte, en apprenant cette nouvelle, va voir les vivres qui restent sur le bateau pour savoir s'il y en a assez pour tous. « Le dégel n'arrivera qu'au mois de mai et nous ne pouvons donc pas quitter la baie avant. Nous devons passer 5 mois d'hiver au milieu des glaces. Nous sommes 14 personnes et il n'y a pas suffisamment de nourriture. Il faudra chasser pour nous nourrir et manger beaucoup moins. »